Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je m'étais donc engagé dans l'étude d'un texte que je considère comme une des plus passionnantes et des plus remarquables autobiographies de la fin d'Heming, qui est donc, je le remets, la chronique d'un apprentissage, le Suépou de Sujetio. Je marque une. J'écris une dernière fois. Donc, la chronique d'un apprentissage. Et mon projet, comme je l'ai expliqué, est de parler plus tard, dans ce cours, de certains événements importants de la transition entre les Ming et les Qing, vu à travers les écrits autobiographiques et les témoignages personnels. Mais avant d'en venir là, donc, j'ai souhaité consacrer un peu de temps, donc ce sera aujourd'hui et une partie de la semaine prochaine, au Suépou, ce que je n'avais pas... J'avais le projet de le faire l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de le faire. D'y consacrer un certain temps, parce que c'est un magnifique exemple de ces nouvelles autobiographies, entre guillemets, apparues pendant la première moitié du XVIIe siècle, et qui ensuite disparaissent pour longtemps, après la transition, disons, après le début des Qing. De ces nouvelles autobiographies, donc, dont je vous ai déjà rappelé les caractères distinctifs, tels que la liberté de ton, un certain anticonformisme dans la façon d'évoquer les relations familiales et sociales, une propension tout à fait inhabituelle à la réflexion critique sur soi-même, et ainsi de suite, sans parler de l'intérêt exceptionnel de certains de ces textes en tant que témoignage sur la société, sur la politique, sur les événements grands et petits, bref, sur tout ce qui fait l'histoire avec un grand H. Il y a de tout cela dans le Suépou, et d'abord, il y a de tout cela en quantité, car, comme je l'ai déjà dit, c'est un texte extrêmement long, et c'est un texte dont la forme même, celle de l'autobiographie chronologique, donc, ou encore analytique, dont la forme même se prête à l'accumulation des faits, grands et petits, encore une fois, des anecdotes rapportées par l'auteur, de ses réflexions et de ses ruminations sur toutes sortes de sujets, etc., etc. Et la forme s'y prête, serais-je tenté de dire, parce que il n'y a pas d'autres contraintes dans une autobiographie chronologique au déploiement du texte que, justement, l'ordre chronologique. Autrement dit, l'auteur d'une autobiographie ou d'une biographie chronologique, d'un Yenpu, donc, n'est pas tenu d'organiser son texte. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu concrètement de choisir, sinon son plan, puisque toute biographie est toujours chronologique, du moins ce dont il va parler, ce qu'il va mettre en valeur. Je veux dire que l'auteur d'une autobiographie chronologique n'est pas obligé d'imposer une cohérence interne à son ouvrage en privilégiant dans la vie du sujet, que ce sujet soit lui-même ou quelqu'un d'autre, si c'est une biographie chronologique, en privilégiant dans la vie du sujet ce qui le situe par rapport à l'un ou l'autre des modèles reçus de carrière, de comportement ou d'activité qui déterminaient depuis toujours l'écriture biographique en Chine. Enfin, de cela, j'ai déjà beaucoup parlé. Je disais que le Suépou est un magnifique exemple de ces autobiographies de la fin des Ming qui ont réussi à subvertir, en quelque sorte, les conventions du genre. Même la forme est extrêmement souple pour une autobiographie chronologique. En certains endroits, c'est en fait l'équivalent d'un quasi-journal dans lequel les faits et les actions sont notés avec une concision toute factuelle, ou même le temps qu'il fait, jour par jour, ou en tout cas avec une date précise au jour près, car il est quand même assez rare dans l'autobiographie de Sujetio d'avoir une longue série de jours se faisant suite, comme ce serait le cas dans un véritable journal, comme dans ces journaux d'ailleurs de nombreux lettrés chinois, où le scripteur s'oblige chaque jour à écrire quelque chose, même s'il n'a rien à dire, c'est-à-dire qu'il met « aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il fait beau ». Mais ailleurs, Sujetio expose les choses dans une forme narrative plus synthétique, en d'autres termes, une forme qui ne se coule pas dans la séquence chronologique quotidienne, en particulier du fait qu'elle recourt volontiers aux retours en arrière. Par exemple, une bonne partie des informations que donne Sujetio sur les problèmes qu'il a rencontrés lorsqu'il était magistrat à Tianxia, donc ce dont j'avais parlé la semaine dernière, sur les mesures qu'il a prises, sur son attitude envers ses administrés, etc., Une bonne partie de ces informations donc sont exposées après coup. Ou plus précisément, elles sont exposées sous forme de réminiscences, je dirais même de bilan, alors qu'il a déjà quitté Jiangxia et qu'il est en route pour Pékin pour regagner son nouveau poste. Et plus tard encore dans l'autobiographie, il reviendra sur certaines choses, beaucoup plus sur certaines choses relatives à cette même, ces mêmes années, de même d'ailleurs qu'il parlera après coup, il reviendra sur sa première magistrature, celle de Shanghai dont j'avais aussi parlé, et cette première expérience, comme on le verra plus tard, lui pose en fait un problème particulier. Je dirais peut-être que la dimension du souvenir ou de la mémoire est omniprésente dans le Xuepu, au sens où à la date Y, on se remémore soudain, pour une raison ou pour une autre, ou même sans raison, ce qui s'est passé ou ce qu'on a fait, voire dans le cas de Xu Zhetuo, ce qu'on a pensé, à la date X, plus tôt, et donc qu'on revient dessus. Et cela donne au texte une sorte d'épaisseur chronologique, ou je dirais peut-être de vécu psychologique, qu'on ne trouve en général pas dans les autobiographies chronologiques, ou tout court d'ailleurs, chinoises. Et d'ailleurs, pour le coup, la forme de l'autobiographie chronologique ne se prête pas particulièrement bien à ce genre de vécu psychologique. Mais là, on l'a. En outre, Xu Zhetuo se laisse aller par endroits à des réflexions plus générales sur tel ou tel sujet, je veux dire, des réflexions qui n'ont qu'un lien passager avec les événements qui les ont suscités ou même qui n'ont aucun lien. Et c'est en particulier le cas lorsqu'il parle de problèmes liés à sa profession de fonctionnaire. Et là, pour le coup, on se sent assez proche de l'autobiographie professionnelle de Gao Tingyao, dont j'ai déjà parlé, et à laquelle j'ai souvent parlé déjà, et à laquelle j'avais fait allusion la semaine dernière, qui s'appelle « Le roi Niotilué ». Comme c'est un texte dont je reparlerai, enfin pas cette année sans doute, mais souvent. Donc, et c'est un texte, je vous rappelle, du début du 19... Enfin, qui raconte une carrière qui s'est déroulée dans les 20 premières années du 19e siècle. Oui, donc Gao Tingyao. Et son ouvrage, ses souvenirs, son autobiographie s'appelle c'est pas le seul d'ailleurs ouvrage de ce genre à porter ce titre ou un titre similaire, le Huanio, qui signifie littéralement les tribulations d'un fonctionnaire, si vous voulez. Tilué, qui signifie simplement un récit, un compte-rendu. Donc voilà. Donc on retrouve, et pour moi c'est un peu un modèle d'autobiographie professionnelle, et on retrouve donc dans l'ouvrage, dans le Xuepu dont je suis en train de parler, beaucoup de traits de cette autobiographie de Gao Tingyao, qui a été rédigée donc dans les années 20, 1820, alors que l'auteur était déjà à la retraite, mais qui ne semble pas avoir été publié avant 1855 au plus tôt, par les soins des fils de l'auteur. Et ce délai est donc beaucoup plus long que dans le cas du Xuepu, où nous avons vu que la décision de publier avait été prise tout à fait à la fin de la vie, contre son gré d'ailleurs, à la fin de la vie de l'auteur, et appliquée 2 ans après sa mort. Comme Xu Zhetuo, en effet, Gao Tingyao combine la narration chronologique et la réflexion générale, voire l'insertion de véritables petits essais sur certains sujets. Mais la grande différence, c'est que Gao Tingyao ne traite que de problèmes liés à la profession. Alors que dans Xu Zhetuo, on trouve également une quantité de notations ou de réflexions plus développées portant sur sa vie privée et surtout sur ses pensées intimes, ses doutes, ses inquiétudes, etc. Et ce qui est remarquable, et dont je ne crois pas avoir vu beaucoup d'autres exemples, c'est la façon dont ces deux dimensions, donc la dimension publique et la dimension privée, si vous voulez, sont imbriquées entre elles. Je veux dire par là, qu'elles ne sont pas simplement juxtaposées dans le courant du texte, mais bien articulées l'une à l'autre, qu'elles se répondent mutuellement. C'est ce qu'on voit en particulier lorsque Xu Zhetuo confie combien ses problèmes personnels lui pèsent dans l'accomplissement de ses fonctions, ou à l'inverse, dans la façon dont les événements de sa vie professionnelle l'amènent à se poser des questions d'ordre plus général, à la limite quasiment philosophique. J'avais parlé à son propos de distanciation par rapport à sa personne officielle. Et c'est bien l'expression récurrente de cette distanciation qui donne au Suépu sa qualité et sa texture unique. Et c'est aussi ce qui en fait un texte dont on ne peut guère imaginer qu'il aurait pu exister à une époque autre que la fin des Ming. Mais cette texture, je ne vais pas essayer de la reproduire dans les remarques que je m'apprête à faire, ou plutôt que j'ai déjà commencé à faire il y a 8 jours. Comme je l'avais dit, c'est un texte très long, donc il y a trop de choses, on ne peut pas parler de tout, mais comme je l'avais dit, il m'a semblé préférable, pour la clarté des choses, de traiter d'abord de la carrière officielle de Xu Zhetuo, qui structure malgré tout son autobiographie, et qui lui donne d'ailleurs, nous l'avions vu, son début et sa fin, puisque le texte commence à son entrée en fonction et se termine, la dernière entrée, c'est quand il démissionne, donc juste avant sa mort. Donc, cette carrière structure son autobiographie et surtout, elle nous apprend beaucoup de choses sur la vie politique et administrative en Chine dans les années 1610 et 1620. Et donc, ce n'est qu'après avoir fait cela, aujourd'hui, un peu encore dans 8 jours, que je reviendrai en conclusion sur la dimension plus personnelle du texte et sur un certain nombre de réflexions dont Xu Zhetuo nous fait part sur lui-même et qui sont extrêmement intéressantes. Cette carrière, donc, j'en avais déjà retracé la première partie, c'est-à-dire les 2 postes de magistrat de sous-préfecture que Xu Zhetuo a occupés entre 1610 et 1617, c'est-à-dire respectivement d'abord à Shanghai pour une courte période et ensuite à Tianxia, donc la sous-préfecture, comme je l'avais expliqué. Où la capitale de la province du Ruguang, donc qui correspond à l'actuelle ville de Wuhan sur le moyen Yangtze, la sous-préfecture ou la qui est le siège en fait de la capitale de la province du Ruguang, donc un endroit important. Et ces 2 épisodes à Shanghai et à Tianxia sont extrêmement contrastés, comme nous l'avions vu, puisque à Shanghai, Xu Zhetuo se fait beaucoup d'ennemis, surtout après qu'il s'est jeté à corps perdu. Et dans une tentative un peu donquichotesque de remise en ordre des opérations de collecte et de chargement du tribut en grain destiné à la capitale, lesquelles donnaient lieu aux pires malversations. Donc il se met à dos les militaires, puisque le convoyage du tribut jusqu'à Pékin était confié à l'armée. Il se fait mal voir de certains puissants personnages qui ne le trouvent pas assez respectueux. et en fin de compte, bien qu'il ait réussi à faire ses livraisons dans les temps, et qu'il soit soutenu par ses supérieurs au gouvernement provincial, il est censuré, diminué dans son rang et renvoyé de son poste. Et les conditions dans lesquelles s'est terminée cette première expérience semblent l'avoir quelque peu traumatisé. En tout cas, ça nous le verrons à la fin, en conclusion, il y fait souvent allusion dans la suite de son texte. Quant à la seconde magistrature de Xu Zhetuo, par contraste, donc à Tianxia, c'est un succès. Et comme nous l'avions vu là aussi, il a été mis dans le poste relativement important, en tout cas à ce stade de sa carrière, de magistrat de la première sous-préfecture d'une grande province, en quelque sorte par effraction. On l'avait nommé en fait un tout petit poste dans le cabinet du chef de l'administration du Rouen, où il n'avait strictement rien à faire, c'était vraiment une voie de garage. Mais de là, on était allé le chercher pour faire l'intérim du poste de Tianxia, qui était son titulaire, et il s'en était si bien tiré, et il était devenu si populaire, que ses supérieurs avaient fini par obtenir non sans mal d'ailleurs, sa titularisation. Donc il va y passer plus de 5 ans en tout, interrompu par un voyage à Pékin pour présenter son rapport triennal, ce qui était la règle sous la dynastie des Ming. J'ai déjà évoqué certaines des entreprises que Xu Zhetuo a réussi à mener à bien dans ses années, pendant ses années à Tianxia, et donc je n'y reviens pas. Mais il vaut quand même la peine de souligner que toute cette partie de son autobiographie est extrêmement riche et concrète en données, en général, disons, sur les problèmes administratifs et notamment les problèmes fiscaux qui se posaient dans un endroit comme Tianxia. Des problèmes, donc, que Xu Zhetuo n'a pas eu peur d'essayer de résoudre, il est vrai, avec l'appui de ses supérieurs, puisque, en tant que fonctionnaire de Tianxia, que magistrat de Tianxia, il avait l'avantage d'être posté dans la même ville, en fait, que les chefs du gouvernement provincial. Ces pages sur la magistrature de Tianxia nous parlent donc de tous les aspects de son travail. Et je pense en particulier à un assez long passage qui se situe, alors celui-là, après son départ, lequel a eu ses produits au milieu de l'année 1617, un passage dans lequel il parle beaucoup, donc ce sont cette espèce de récapitulation qu'il fait après qu'il ait quitté le poste. Donc un passage où il parle beaucoup de ses principes et de ses méthodes dans ce qui concerne l'administration de la justice. Ce qui est pour lui l'occasion d'évoquer quelques affaires difficiles et même sensationnelles qu'il a eu à régler, quelques cas, enfin de ces cas que les magistrats aimaient à parler quand ils les avaient résolus avec succès, et ces cas que nous examinons d'ailleurs en séminaire. Et on voit dans ces quelques pages, donc sur son administration de la justice, on voit qu'il n'hésitait pas à les régler, ces affaires, de manière plutôt expéditive lorsqu'il était confronté à des criminels particulièrement malfaisants. Et je le signale parce qu'il est intéressant de voir que lorsqu'il avait la confiance de ses supérieurs et l'appui de l'opinion publique, un magistrat pouvait se permettre d'ignorer certaines provisions légales en matière de vérification et de confirmation des sentences, surtout des sentences capitales, par les échelons supérieurs. En l'occurrence, on voit qu'il pouvait s'arranger pour, dans un exemple qu'il donne, exécuter un parricide, un homme qui avait tué son père, par exemple, ou un tyran local, et l'exécuter de sa propre initiative, et certainement pas dans les formes. Et c'est intéressant parce que plusieurs chercheurs se sont récemment penchés sur ces questions de procédure et qu'ils tendent plutôt à interpréter la fin des Ming comme une période d'extrême prudence avant d'arriver à des décisions finales, de contrôle hiérarchique très tatillon. Et l'impression que laissent les propos de Xu Zhetiao, ici et ailleurs, un peu par contraste avec cette opinion, et qu'il disposait en réalité d'une assez grande autonomie. En tout cas, ce bilan que dresse Xu Zhetiao dans le bateau qui le conduit vers sa nouvelle affectation montre qu'il est visiblement satisfait de ce qu'il a réussi à accomplir, sans pour autant avoir eu à donner l'image d'un magistrat, l'image classique du magistrat surmené et dépassé par les événements. Et comme il le dit alors, dans cette partie du texte, tout ce que j'ai fait, je cite, tout ce que j'ai fait, je peux le justifier, toutes les objections, je peux y répondre. Et il ajoute, et c'est intéressant, même dans mes rêves, je suis confortable. C'est ainsi que je comprends Mong Mei Yi She. Donc Mong dans mes rêves. Mong Mei. Oui, voilà. Yi, et j'emploie le mot She, ce qui veut dire je suis à l'aise. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on constate que Xu Zhetiao parle très souvent de ses rêves dans son autobiographie. Et là encore, c'est un trait tout à fait caractéristique de l'époque. D'ailleurs, l'année dernière, je me souviens que j'avais parlé, enfin de seconde main d'ailleurs, d'un journal d'un lettré de la Transition qui analysait ses rêves de façon extrêmement intéressante. Ça a donc été pour lui, en résumé, une période professionnellement satisfaisante. Et d'ailleurs, ses supérieurs, les deux chefs de l'administration provinciale, ont envoyé un rapport spécial extrêmement élogieux dans lequel ils soulignaient l'importance des réalisations de Xu Zhetiao en seulement 4 ans, ce qui était là, en fait la période pendant laquelle il avait été titulaire du poste. Et Xu Zhetiao souligne que c'est extrêmement rare qu'un simple magistrat ait droit à un tel appui par mémoire spéciale. Malheureusement, il semble d'une part que Xu Zhetiao traîne toujours son dossier de Shanghai, et d'autre part, où il avait été donc renvoyé de son poste, et d'autre part, qu'il ne dispose pas à la capitale d'intermédiaires, il appelle ça des chongzhen, des gens au milieu, c'est-à-dire de relations qui seraient en position d'exercer leur influence en sa faveur. Et le résultat, c'est que le rapport des gouverneurs du Ruang, c'est-à-dire du responsable administratif et du responsable judiciaire, est laissé sans suite et qu'au lieu d'une belle promotion, Xu Zhetiao est affecté à un poste tout à fait subalterne au ministère des Travaux publics, au Gongbu. Donc il a quasiment le plus petit poste du ministère qui est le dernier dans la hiérarchie des ministères. En quoi consiste ce poste? Eh bien, il est chargé d'administrer un dépôt de charbon de bois dépendant du ministère, plus précisément dépendant de la direction des domaines de l'État à l'intérieur de ce ministère. Donc les ministères avaient des grandes directions, des départements, si vous voulez, qu'on appelait des Qingli-si. Et là, en l'occurrence, le ministère des Travaux publics, donc le Gongbu, a un... Tuntian Qingli-si. Et Tuntian, ce sont les domaines d'État, en particulier les colonies militaires, mais pas seulement. Et donc, dans ce Tuntian Qingli-si, il y a une sous-direction du charbon de bois. Et ce dépôt est appelé Taijiquan. Non, c'est pas ce taille, excusez-moi. Taijiquan. Le dépôt de Taiji, si vous voulez, Chang, donc c'est une sorte de grand terrain avec des hangars, des choses comme ça. Et d'après ce que j'ai réussi à comprendre, en compulsant le Daming Huidian, je vais en parler tout de suite, c'est-à-dire le recueil des institutions des Ming, que j'ai proposé de définir, que j'ai proposé ailleurs, de définir comme une sorte de constitution administrative de l'Empire, parce que c'est un texte qui décrit minutieusement toutes les institutions, tous les bureaux avec leur personnel et leur mission. Donc, en compulsant le Huidian, j'ai réussi à comprendre que le Taijiquan était un des dépôts de la capitale, il semble qu'il y en avait trois, où était donc entreposé le charbon de bois, fabriqué et collecté dans plusieurs domaines situés dans les montagnes de l'ouest de Pékin, également sous la supervision du ministère des Travaux publics. Et ce charbon était destiné, bien sûr, aux palais et aux diverses administrations de la capitale, lesquels se voyaient allouer des quantités réglementaires pour leur chauffage. Et quand il en fallait plus, on va voir juste tout à l'heure un exemple de circonstances où il en fallait plus de charbon, les demandeurs étaient requis d'envoyer du personnel pour aller prendre livraison du charbon, donc au Taijiquan, en échange de paiements en argent sur leur budget. Mais il semble aussi d'ailleurs que le Taijiquan était un espace ouvert, une sorte de parc, où l'on produisait du fourrage pour les chevaux du gouvernement. Et grâce à l'aide de je me suis demandé, le Huidian ne permet pas de le localiser exactement, mais j'ai posé la question à deux collègues qui sont grands connaisseurs du Pékin, des Ming et des Qing, Luca Gabbiani, qui a fait une thèse et qui a bientôt publié sur les réformes de la ville de Pékin, de sa gestion, disons, à la fin des Qing, et Suzanne Nakin, qui a publié un très gros livre extrêmement riche et précis sur les temples de Pékin, où il y en avait des centaines et des centaines, sous les Ming et les Qing. Et donc, ces deux collègues m'ont répondu quasiment par retour, en me disant à peu près où c'était, et j'ai pu donc comprendre que le Taijiquan se trouvait dans la ville intérieure, où a longtemps existé, jusqu'à la fin des Qing, semble-t-il, une rue qui portait ce nom, donc qui correspondait à cet ancien site. Et la localisation, c'est... Alors, je fais une sorte de croquis de Pékin, parce que j'en reparlerai, aide-mémoire. Enfin, tout le monde connaît la forme très caractéristique de la ville, c'est-à-dire avec une ville nord, qu'on appelle la ville intérieure. Tout ça, ça correspond à des autoroutes urbaines aujourd'hui, mais c'était les murailles. La ville nord, la ville intérieure, et la ville sud, ville extérieure, qui a été murée, en fait, seulement à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, et qui était complètement muré, tout à fait à la fin des Ming. Donc, et vous avez la cité interdite, ensuite ce qu'on appelle la ville impériale, et c'est à peu près là que se trouve l'actuelle place Tiananmen, et sur le site actuel de Tiananmen, de la place, se trouvaient les ministères, les six ministères et d'autres administrations, jusqu'à la fin des Qing, en fait. Et donc, le Taijiquan se trouvait à l'angle, semble-t-il, de l'actuelle avenue, ce qui correspond à l'avenue Chang'an, la grande avenue Est-Ouest, et la rue Wang Fuqing, bien connue des touristes. Et donc, ça devait être quelque part par là. Donc, tout à fait à proximité, contrairement à ce que je croyais au début, que je croyais que Suzhou était perdu quelque part dans les faubourgs lointains, mais pas du tout. Il était très près, semble-t-il, du site où se trouvait son administration de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Travaux publics. Et c'est donc là qu'il se retrouve affecté après son arrivée à Pékin. Et encore une fois, c'est vraiment l'administration du gouvernement central la plus modeste qu'on puisse concevoir. Mais il fait les choses sérieusement. Et si je suis allé me renseigner dans le Dami Ruedien, donc cette constitution administrative dont je viens de parler, donc des grands Ming, hein, bien sûr, si je suis allé compulser le Ruedien, c'est parce que on voit dans l'autobiographie que c'est exactement ce que Sujetio lui-même a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait ? C'est un petit détail, mais qui illustre quand même assez bien à quel point les pratiques s'étaient relâchées dans l'administration centrale à cette époque. En effet, Sujetio reçoit un jour, qui résidait sur ce terrain, reçoit un jour une demande de l'Académie Ranlin, donc là, le lieu où se trouvait tout le super gratin, disons, des fonctionnaires chargés de fonctions littéraires, une demande de l'Académie Ranlin pour un supplément de charbon qui est justifié par les travaux en cours ou juste achevés, je ne sais pas, de compilation, d'une part d'une livraison de la généalogie impériale et d'autre part des chroniques quotidiennes des faits et gestes de l'empereur. Je vous passe les détails, les yutie, c'est-à-dire les généalogies impériales, étaient des grands, tout ça était manuscrit, étaient des grands cahiers qu'on mettait à jour périodiquement. Quant au Chi-Tu-Ju, c'est-à-dire les notes sur les actions quotidiennes de l'empereur, prises par des analystes, c'était également quelque chose qu'on complétait périodiquement. Et c'était donc des gens travaillant à l'Académie Ranlin qui étaient chargés de cela. Et comme c'était des travaux n'entrant pas, disons, dans la routine quotidienne, des travaux supplémentaires, si vous voulez, on demandait un peu plus de charbon pour se chauffer pendant qu'on calligraphiait les Chi-Tu-Ju ou les Yu-Tie. Mais il semble, en l'occurrence, que les gens de l'Académie demandent trop de charbon. Et on lui dit que c'est chaque année comme ça, et de plus en plus. Donc, Sujetio va vérifier le règlement dans le Ruedien, où il voit qu'il est bien dit, et j'ai pu vérifier, non sans mal d'ailleurs, car l'édition moderne est écrite et minuscule, où il est bien dit dans une note que le charbon doit être délivré suivant le prix officiel du dépôt. C'est le Changtia. Or, là, les gens de l'Académie en veulent plus et il se révèle que tout le monde à l'Académie Ranlin, depuis les vice-présidents jusqu'aux voituriers, profite de telles occasions, donc de la compilation des généalogies impériales, des choses comme ça, pour budgéter des sommes correspondant à un prix supérieur au prix officiel du dépôt, avec lesquelles, sommes avec lesquelles l'Académie se fait livrer des quantités en excédent. Lesquels, enfin c'est comme ça que je l'ai reconstitué, que je l'ai compris, lesquels seront ensuite revendus sur le marché. Et je présume que c'est la même chose que ce qui se passait en effet pour les salaires et les soldes, les salaires des fonctionnaires et les soldes des militaires, dont une grande partie, encore sous les Qing, était versée en grains. Et ces grains passaient tout de suite sur le marché public dans la ville de Pékin. Donc c'est probablement un processus du même type. Je vous passe le détail des démarches entreprises par Sujetio, avec l'appui d'ailleurs de son chef de bureau, pour faire respecter la lettre du règlement, lesquelles démarches rencontrent évidemment les plus vives résistances à l'Académie Ranlin et diverses tentatives de sabotage. On charge le personnage qu'on charge toujours de saboter dans ces cas-là, c'est-à-dire le concierge, de bloquer les émissaires du dépôt qui viennent remettre leur rapport. Mais Sujetio finit par atteindre le grand chef de l'Académie Ranlin, sinon en personne du moins, à lui faire passer son placé et à remettre les choses en ordre. Et plus tard, en revanche, ça s'est terminé de façon... il a réussi, disons, à obtenir ce qu'il voulait. Mais plus tard, en revanche, quand il y aura un autre problème relatif aux livraisons de charbon, et cette fois-ci, ça n'est plus l'Académie Ranlin, mais c'est le palais de l'héritier présomptif, un autre problème parce qu'on veut changer les règles dans un sens que Sujetio considère encore une fois comme illégal par rapport aux institutions officielles ou reçues et que Sujetio envoie de nouveau des requêtes officielles pour faire annuler la décision, eh bien cette fois ces requêtes seront efficacement bloquées et il décide, il le dit, c'est ça qui fait aussi qui est un peu spécial dans son autobiographie, il le dit explicitement, il décide de ne pas s'acharner, car, dit-il, ce n'est vraiment pas la peine d'ajouter des problèmes aux problèmes. Dans tous les cas, il n'est pas du tout indifférent de constater, à travers ce genre de notation dans le Xuepu, que des fonctionnaires de rang très modeste n'hésitez pas à compulser pour leur gouverne ces grandes compilations administratives qui ont été publiées, en particulier publiées ou republiées, notamment au début du règne de l'empereur Wanli, donc dans les années 1580. Oui, toutes sont parues dans les années 1580. Et des compilations dont on aurait pu penser qu'elles étaient plutôt réservées aux échelons supérieurs du pouvoir. Donc non seulement le Dami Huidian dont je viens de parler, mais aussi, et Sujetu en parle un peu plus loin, aussi une compilation encore plus massive et achevée en 1581 qui s'appelle le Wanli Kwai Ti Lu et qui est donc une comptabilité générale ou un budget général de l'Empire pour le règne de Wanli, donc contemporain. Et ça, c'est un... Le Wanli Kwai Ti Lu a été conservé, bien sûr. C'est un texte, enfin un texte, si on peut appeler un budget un texte. Donc Wanli, ben, c'est l'empereur Wanli. Et Kwai Ti, c'est le mot qui signifie comptabilité. Et Lu, c'est Lu, quoi. Enfin, un compte rendu. Et, qui avait été achevé en 1581. Et c'était un ouvrage dans lequel on s'est forcé, non sans beaucoup de difficultés, de mettre à plat et dans le plus grand détail le budget excessivement embrouillé de l'Empire. Et en fait, le détail intéressant aussi, c'est que Sujetu consulte et commente le Kwai Ti Lu, non pas dans son bureau, mais plus tard, alors qu'il est en voyage à titre privé, pour ramener le cercueil de son père au Zhejiang. Encore une fois, ce n'est qu'au détour d'un texte comme le Xuepu qu'on a des chances de saisir ce genre de détails pratiques qui me semble important, à savoir dans quelle mesure ces grandes compilations qui nous servent, à nous historiens, pour essayer de comprendre, par exemple, ce qu'on faisait dans ce dépôt de charbon de bois, étaient d'usage tout à fait courant pour même des fonctionnaires subalternes. Donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce sont les responsabilités quotidiennes de Sujetu dans son dépôt, et elles ne sont pas d'une grande importance historique, à vrai dire. En revanche, pour lui personnellement, le site où se trouve le dépôt aura une importance réelle, car il réussit à s'y aménager un jardin qu'il décrit amoureusement autour d'un pavillon abandonné qu'il a fait réhabiliter et où il réside avec sa famille. Et ce jardin est aussi un lieu de réunion, bien sûr, où il peut boire et bavarder avec ses amis. L'éthylisme est presque aussi fréquent et intense que la réflexion philosophique dans le Xuepu, où il peut boire et bavarder avec ses amis et où se déroule en partie sa vie sociale à Pékin. Et cette vie sociale est importante car si Sujetu n'est qu'un tout petit fonctionnaire à ce moment-là, il est quand même titulaire du doctorat, comme nous avons vu, et cela signifie ipso facto beaucoup de relations parmi ses collègues ayant le même rang que lui, et ce rang est très élevé dans la hiérarchie mandarinale. Donc des gens qui sont en fonction, qui ont de meilleurs postes que lui, qui sont en fonction dans les diverses administrations de la capitale, et par l'intermédiaire de qui il recueille une quantité d'informations que nous retrouvons donc dans le Xuepu. Et c'est ainsi que les pages consacrées aux moins de 2 années qu'il passera dans cet endroit, quelque peu à l'écart des centres nerveux du pouvoir, moins de 2 années parce que, comme je viens de le dire, son père qui vit avec lui meurt dans le courant de 1619 et que Sujetu doit donc prendre immédiatement le deuil réglementaire et ramener le cercueil au pays. C'est ainsi donc que ces pages relatent de nombreuses conversations très instructives sur la façon dont les choses se passent à la capitale, sur la vie des hauts fonctionnaires de la cour, sur l'état de l'opinion, voire même sur le comportement privé de l'empereur dans certaines circonstances. L'empereur Wanli est alors tout à fait à la fin de sa vie, mais il est toujours aussi capricieux et dépensier. De même, Sujetu évoque diverses réunions amicales avec des collègues, toujours très arrosés, des visites en ville ou au palais, des rencontres avec toutes sortes de personnages, y compris des eunuques du palais, etc. etc. C'est à la fois très riche et très varié. Mais ce n'est pas seulement de potins politiques ou de bavardages entre collègues qu'il s'agit, ou d'anecdotes sur la vie à la capitale, même si tout cela est toujours intéressant et de plus toujours très vivant en raison de la liberté avec laquelle Sujetu en parle et des conversations qu'il rapporte. Certains problèmes ou certains événements inquiétants pour l'avenir de la dynastie des Ming à ce moment viennent en effet interrompre cette vie somme toute agréable et qui, là encore, semble laisser beaucoup de temps libre à Sujetio. Il y a en fait surtout un problème à ce moment, qui est l'état catastrophique des finances du gouvernement, que ne font qu'aggraver les grands travaux ordonnés par l'empereur au palais, ça c'est un vieux problème avec l'empereur Wanli et même ses prédécesseurs, ou encore le coût des cérémonies du mariage d'un de ses fils juste à ce moment-là. Donc un problème, les finances, et un événement qui a rendu ce problème encore bien plus aigu, et cet événement c'est la prise de la garnison de Fushun en mai 1618 par Nurasi, c'est-à-dire le chef mandchou qui s'était proclamé empereur 2 ans plus tôt, et qui sera donc, considéré a posteriori comme le fondateur de la dynastie des Qing, même si, à ce moment-là, le nom des Qing n'existait pas encore. Donc, voilà, Fushun et Nurachi, qui est un nom qui n'est pas un nom chinois, donc je vous dispense des caractères chinois avec lesquels on le transcrivait. Donc 2 ans après que Nurachi, qui était dans les relations avec les Ming dans l'ensemble dans ces territoires de Mandchourie, était de plus en plus difficile, se proclame empereur et en mai 1618, il s'empare de cette garnison de Fushun qui était située non loin de l'actuelle ville de Shenyang. En Mandchourie centrale, et la capture de Fushun par les Mandchous leur ouvrait en fait la voie pour s'emparer de l'ensemble du bassin du Liaodong, c'est-à-dire le sud-ouest de la Mandchourie, autrement dit la Mandchourie maritime, si vous voulez, qui était alors une sorte de colonie militaire des Ming et qui servait de zone tampon pour protéger l'Empire contre la menace montante des Mandchous qui étaient partis alors tout à fait du nord de la région, à la frontière nord-est. Et lorsque la nouvelle de la chute de Fushun est reçue à Pékin, Sujetio dit simplement que la ville a été prise, que l'armée qui la défendait a été anéantie et que le commandant est mort. En réalité, ce qu'on devait apprendre plus tard, il n'était pas mort du tout, mais s'était rendu avec ses troupes et tout son matériel dès le premier assaut des Mandchous, lesquels lui avaient fait de belles promesses en cas de reddition, et l'ont en effet intégré à leur organisation. Et je le mentionne parce que la même chose s'est passée avec une quantité d'autres officiers chinois, parfois très de rang très élevé, qui se sont rendus aux Mandchous plutôt que de se faire massacrer, et qui sont devenus ensuite des dignitaires dans l'appareil des Qing. Certains d'ailleurs, on ne le savait pas à Pékin, et on croyait qu'ils étaient morts, et on les célébrait, on leur élevait des temples, et puis on découvre 2 ou 3 ans après que non, ils n'étaient pas morts du tout, et qu'il est rentré en Chine dans les fourgons de l'envahisseur. Il y a plusieurs cas célèbres. Quoi qu'il en soit, 3 jours après qu'on a appris la nouvelle, Sujetio rend compte en grand détail d'une réunion des chefs du gouvernement, c'est-à-dire ces gens qu'on appelait les 9 ministres auxquels s'ajoutait les censeurs, une réunion à laquelle quelqu'un comme lui ne pouvait évidemment pas assister, et donc une réunion au cours de laquelle les ministres discutent des manipulations financières très compliquées, une sorte de cavalerie en fait, entre plusieurs postes financiers et également entre la bourse impériale, enfin le trésor impérial privé sur lequel qui avait beaucoup d'argent et sur lequel l'empereur Wanli restait assis en essayant d'en donner le moins possible, et les finances du gouvernement proprement dit. Donc ils discutent de toutes ces manipulations qui devraient permettre de renforcer les armées du nord-est et de contre-attaquer. Et ces questions, aussi bien la crise financière que la situation extrêmement tendue sur le front de Mandchourie, ces questions ne cessent de revenir dans l'autobiographie de Sujetio, que ce soit à propos d'événements qu'il mentionne en cours de route, comme justement la prise de Fushun, enfin la chute de Fushun, ou à travers les réflexions que ces événements lui inspirent, ou à travers les innombrables discussions avec ses collègues sur ces sujets qu'il rapporte. Au début de 1619, par exemple, lorsque l'empereur fait soudain et sans aucun préavis entreprendre des nouveaux travaux au palais, alors que les frontières sont sous pression et que les caisses sont vides, Sujetio est scandalisé. Et par la suite, il ne cesse de commenter la façon dont tel ou tel général est traité par la cour, de donner son avis sur les décisions de l'empereur, par exemple sur l'indemnisation des soldats morts au combat et de leurs familles, lui est contre l'indemnisation des familles, il explique pourquoi, et ainsi de suite. Ce serait bien trop long de tout mentionner, mais c'est simplement pour insister sur le fait que ces événements sont tout le temps présents, en fait, dans l'autobiographie, même quand Sujutio n'y est pas directement impliqué. Et ses préoccupations ne le quittent pas lorsqu'il est éloigné de l'administration. J'ai mentionné tout à l'heure la mort de son père qui l'oblige à quitter aussitôt Pékin. Certes, pendant les deux années suivantes, qui correspondent bien sûr à la période réglementaire de deuil que les fils en général, mais un fonctionnaire en particulier, devait observer dans sa province natale, donc à la maison, pendant ces deux années, l'autobiographie de Sujutio relate beaucoup de conversations à bâton rompu avec ses amis et d'anecdotes locales, et on y trouve beaucoup d'aphorismes et de réflexions sur tous les sujets imaginables, mais il fréquente aussi beaucoup les fonctionnaires locaux, si bien que ses préoccupations et ses avis concernant l'administration locale occupent une grande place dans le texte. D'ailleurs, il recueille au passage un certain nombre d'informations inédites et surtout très concrètes sur ses problèmes d'administration locale tels qu'ils se présentaient dans les endroits, chez lui d'abord, et ensuite dans les endroits qu'il a traversés à cette occasion. Et ces informations sont d'autant plus intéressantes que Sujutio, ça il faut aussi insister, est un observateur très précis, qu'il se renseigne, y compris en interrogeant les petites gens, comme par exemple le personnel des relais postaux qui assure son transport, et qu'il n'hésite pas à s'arrêter ou à faire un détour pour voir les choses et les lieux, même si ça suppose beaucoup de marche à pied, ce qu'en général les lettrés n'aimaient pas trop. Et à cela s'ajoutent bien sûr les commentaires, souvent très critiques, suscités par les nouvelles de la guerre, ou de l'activité à la cour. Et là, on peut voir que, comme tous les gens de son milieu, dans les provinces, Sujutio est tenu régulièrement informé par ce bulletin officieux d'information gouvernementale que les missionnaires ont baptisé un peu plus tard, pratiquement à la même époque d'ailleurs, ont baptisé la Gazette de Pékin, et dont le nom chinois est Dibao. L'origine de ce nom, peu importe, c'est pas le moment d'en discuter, et qu'on appelle aussi parfois Di Chao. Et ce deuxième nom qui signifie copier, Chao signifie copier à la main, indique bien de quoi il s'agissait, puisque la gazette n'était pas imprimée, elle était recopiée à la main de proche en proche, et quasiment jour après jour, et donc basé sur les documents affichés par le gouvernement central. Et pour ne donner qu'un exemple, Sujutio critique vivement une proposition qu'il a lue dans la gazette de renforcer la défense du Nord-Est en recrutant des miliciens en masse, en les équipant et en les payant, car, et c'était l'argument de la personne qui avait fait la proposition, car les habitants de la région, enfin du Nord-Est, donc de la Mandchourie, sont des gens fiers et violents au plus haut point, et qu'ils protégeront efficacement la frontière. Mais Sujutio, donc, est totalement contre, et il explique pourquoi, en évoquant, par exemple, l'exemple des Song du Sud et de leurs efforts, qui avaient également recruté des armées de mercenaires, et de leurs efforts, de leurs vains efforts, pour résister aux Mongols. En fait, comment lever une armée efficace, bien commandée, bien équipée et bien payée? C'est une question sur laquelle Sujutio revient très souvent dans son texte, à diverses occasions, sur laquelle il a des opinions très, très arrêtées, et sur laquelle il acquérera en fait une certaine expérience. Et c'était en effet un des problèmes majeurs sur lesquels les Ming ont buté dans les dernières décennies avant la défaite finale. Sujutio n'était évidemment pas le seul à son époque et dans son milieu à suivre les développements à la frontière avec la plus extrême anxiété. Mais dans son cas, les problèmes militaires qui semblent l'avoir toujours passionné vont, dans les années qui suivent, devenir une sorte de spécialité professionnelle. Et, comme on va le voir tout de suite, ce nouveau développement dans sa carrière est essentiellement dû au hasard des nominations. En effet, une fois sa période de deuil achevée, Sujutio repart pour le Nord. On est à ce moment-là au troisième mois lunaire de l'année 1622. Et tout de suite après son arrivée dans la capitale, deux mois plus tard, il est affecté à un poste de secrétaire, le terme est Zhuzhi, et c'était un fonctionnaire, un vrai fonctionnaire, pas un simple commis, mais c'était le poste, le, malgré tout, en bas de la hiérarchie dans les directions et les bureaux des ministères. Enfin, quand on avait une carrière à la capitale, c'est qu'on venait des provinces, c'était en général par ça qu'on commençait. Donc, il est affecté à un poste de secrétaire dans un des départements du ministère des armées, cette fois-ci, donc du Pingbu. C'est un poste relativement modeste, qui a le rang 6A dans la hiérarchie des 9 rangs, mais qui est quand même beaucoup moins modeste que lorsque Xu Zhetuo avait été relégué au dépôt de charbon. À présent, il fait vraiment partie, on peut le dire, de l'établissement au sein de la fonction publique métropolitaine. Entre-temps, il est quand même important de le rappeler, l'empereur Wanli est mort en août 1620. L'héritier désigné est désigné au prix de tant de controverses une trentaine d'années plus tôt, j'y avais fait allusion. L'héritier désigné est monté sur le trône sous le nom d'empereur Taichang, mais il est lui-même mort. Dans des conditions d'ailleurs pas très claires. Il était malade et il semble qu'il ait été achevé par les médications qu'on lui administrait. Il est quand même mort au bout d'un seul mois. Si bien que le souverain sous lequel Xu Zhetuo va servir, avant d'être démis de ses fonctions, comme on le verra plus tard, est l'empereur Tianxi, qui régnera de 1620 donc à 1627. Celui-là, Taichang, je en dispense puisqu'il a une existence tout à fait éphémère. C'était donc l'héritier présomptif de l'empereur Wanli. Non, je viens de dire que je ne vous l'écris pas, mais voilà quand même. Donc Taichang et Qi. Excusez-moi, j'ai un trou. Oui, Tianxi, bien sûr. Excusez-moi. Voilà. Tianxi, il manque un bout. Voilà. L'empereur Tianxi, donc 1620, règne 1620-1627. Et curieusement, ces événements, donc de passage de changement d'empereur, qui étaient pourtant d'une importance considérable pour des gens comme Xu Zhetuo, ces événements ne sont pas mentionnés dans son autobiographie. En tout cas, ils ne le sont pas au moment où ils surviennent et donc où il en est informé par la Gazette, comme tout le monde. En revanche, il y fera plus tard allusion, même plusieurs fois, il fera plus tard allusion aux controverses qui ont entouré ces événements, en particulier la mort de l'empereur Taichang. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le lieu ici de raconter en détail les affrontements politiques réellement dramatiques qui ont marqué le règne relativement court de Tianxi. Et il devrait être suffisant de rappeler que pour l'opposition politique du parti Donglin, dont j'ai déjà dit un mot et que j'avais qualifié de fondamentaliste confucéenne, pour cette opposition, donc, c'est le retour triomphal aux affaires tout de suite après la mort de Wanli. Malheureusement, le trône n'est pas tout à fait à la hauteur, pour dire le moins. L'empereur, donc Tianxi, n'est alors qu'un adolescent d'une quinzaine d'années, à qui il n'y a jamais eu moyen d'enseigner quoi que ce soit, et qui consacre tout son temps à sa seule passion, pour laquelle il semble d'ailleurs avoir eu un réel talent, à savoir l'ébénisterie. Pendant ce temps, le gouvernement central est entièrement contrôlé par un eunuque ambitieux qui a depuis longtemps réussi à se gagner l'affection du futur empereur et qui est bien sûr le fameux Wei Zhongxian, dont j'avais également donné le nom déjà, je crois. Donc, Wei Zhongxian. Donc le gouvernement est en fait contrôlé par Wei Zhongxian ainsi que par celle qu'on dit avoir été sa maîtresse qui n'était d'autre que la nourrice de l'empereur, une certaine Madame Ke. Et si au début Wei Zhongxian semble avoir à peu près cohabité avec les hauts fonctionnaires issus du parti Donglin, donc qui sont revenus au pouvoir, et les avoir laissés se consacrer à leur tentative de réforme, les relations se sont assez vite détériorées. Et tout cela s'est terminé par une purge sanglante en 1624 et 500 et surtout 1625. Et pendant ce temps, la situation sur la frontière ne faisait qu'empirer. Une grande expédition punitive avait été envoyée en 1619 après la chute de Fushun, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle avait tourné au désastre. La défense du Nord-Est avait alors été confiée à un général, ou devrais-je dire un lettré devenu général, parce que tous ces grands généraux en chef envoyés sur les théâtres d'opération étaient en fait des lettrés des fonctionnaires civils qui s'étaient spécialisés dans ces affaires et qui devenaient donc des chefs de guerre. Et ce général, j'avais donné son nom rapidement, je l'avais en tout cas mentionné la semaine dernière, c'est Xiong Ting Pi. J'avais mentionné Xiong Ting Pi il y a 8 jours parce que c'était lui, en fait, le grand notable local qui avait sponsorisé, si je puis dire, et rendu possible la reconstruction des digues du Yangtze, dont nous l'avions vu, Xu Zhetiao avait été le principal responsable sur le terrain. Xiong Ting Pi était alors, à ce moment-là, était en disgrâce, et il s'était donc retiré dans sa sous-préfecture natale, qui était justement Tianxia. Et un jour de 1614, d'ailleurs, Xu Zhetiao l'avait vu débarquer dans son bureau pour lui, modeste magistrat, pour lui exposer les projets qu'il souhaitait voir réaliser. Et Xu Zhetiao avait pu constater à cette occasion que Xiong Ting Pi avait une connaissance extrêmement concrète et précise des problèmes. En 1619, donc, Xiong Ting Pi est rappelé pour commander le théâtre du Nord-Est, pour être général en chef, le mot est Ting Lue, mais il va être assez vite limogé à la suite d'intrigues compliquées à Pékin, et son successeur, dont le nom importe peu, laisse la situation se détériorer à un tel point que les deux principales villes de la région, donc du bassin de la rivière Liao, en Mandchourie, à savoir Shenyang et Liaoyang, tombent aux mains des Mandchous à quelques jours d'intervalle en mai 1621 et que les Mandchous contrôlent désormais toute la partie orientale de la Mandchourie, y compris la péninsule du Liaodong qui fait face au Shandong. Parce que là, j'aurais pu projeter une carte ou quelque chose, mais je ne suis pas très doué pour faire les cartes à la main, enfin à main levée. Mais malgré tout, vous avez le golfe du Juli, Pékin, donc là, la Grande Muraille, la Mandchourie avec le bassin de la rivière Liao, et vous avez là cette péninsule du Liaodong qui en fait est extrêmement proche de la province du Shandong. Là, la traversée fait seulement, je ne sais pas combien elle faisait à l'époque, mais enfin c'est vraiment une distance extrêmement, et ça a toujours été une voie de passage très fréquentée. Donc les Mandchous se sont emparés de la péninsule et de toute la région à l'est de la rivière Liao. Et Xiong Ting Pi est à nouveau convoqué et envoyé pour commander les troupes dans le nord-est. Mais de nouveau, il va être démis de ses fonctions et finalement, il va être condamné à mort à la suite d'une défaite dont il n'était en fait pas du tout responsable. Or, l'autobiographie de Xu Zhetiao contient un passage assez frappant sur justement l'exécution de Xiong Ting Pi, dont il parle avec beaucoup de respect. Ceci se passait le 27 septembre 1625, donc 3 ans après la défaite en question, et Xu Zhetiao réussit en quelques lignes à suggérer de façon assez saisissante l'ambiance qui régnait à Pékin ce jour-là. La cité impériale en état de siège, gardée par une myriade d'eunuques en armes, pendant qu'on emmène Xiong Ting Pi sur le terrain d'exécution, les passants qui s'arrêtent avec effroi, l'un des grands secrétaires qui regagne ses bureaux armé d'un gourdin parce qu'il a peur de se faire attaquer, pour Xu Zhetiao, je cite, « c'était comme si l'on se protégeait contre une attaque venant d'un pays ennemi ». Et il raconte encore que son service, il était à ce moment-là donc au ministère de la guerre, que son service a été obligé de fournir le baquet dans lequel on a mis la tête de Xiong Ting Pi après l'avoir décapité, car l'empereur avait ordonné, c'est-à-dire en fait Wei Zhongxian, avait ordonné qu'elle soit exhibée dans les 9 régions militaires qui défendaient la frontière nord, ceci afin d'avertir les chefs de l'armée de ce qui les attendait en cas de défaite. L'empereur, en fait, entre guillemets, n'y était pour rien, et tout cela venait bien sûr de Wei Zhongxian, qui s'était allié au pire ennemi de Xiong Ting Pi, lequel était plutôt soutenu par les membres du parti Donglin, et qui avait également interdit que sa dépouille fût ensevelie. Et nous verrons plus tard que c'est parce qu'il s'est attaqué à un des protégés de Wei Zhongxian que Xu Zhetiao sera démis de toutes ses fonctions, également en 1625, mais plus tard. Mais avant cette année 1625, en fait, Wei Zhongxian est à peine mentionné dans le texte. Et en général, il ne l'appelle jamais par son nom, mais il dit le grand eunuque. Et on comprend évidemment de qui il s'agit. Quoi qu'il en soit, il était nécessaire de rappeler tous ces événements, c'était un peu une digression, parce qu'ils sont constamment en arrière-plan de la seconde et de la troisième période, parce qu'il y en aura une troisième, pendant laquelle Xu Zhetiao a été en fonction à Pékin, et dans les deux cas, donc la deuxième et la troisième période, au ministère de la guerre. Cela étant, le texte du Xuepu, pendant ces quelques années, se présente de façon assez semblable aux années du premier séjour dont j'ai parlé tout à l'heure, sauf que le texte est nettement plus long. On y retrouve les conversations avec une quantité de collègues et d'amis sur toutes sortes de sujets, à commencer par les développements politiques et militaires en cours. On y retrouve aussi une accumulation de réflexions et d'aphorismes de nature philosophique ou religieuse, ou encore la mention de certains moines que Sujetio fréquente régulièrement. Et on y retrouve en très grand nombre des scènes de bureau, des réunions de service, des récits d'audience, car à présent, Sujetio fait partie des fonctionnaires convoqués aux audiences publiques aux portes du palais, où en fait l'empereur menuisier ne se souciait pas d'apparaître en personne. Mais, explique-t-il, lors d'une, à propos d'une de ces audiences auxquelles il a assisté, depuis en bas, on ne comprend à peu près rien de ce qui est proclamé à la tribune. Donc il n'y a pas de sonorisation, évidemment. Et on trouve aussi, dans cette partie du texte, toutes les anecdotes que Sujetio a entendues sur la vie au palais. En bref, tout ce qui constituait la vie quotidienne d'un fonctionnaire métropolitain, y compris les innombrables mondanités qu'elle comportait, avec leurs petites disputes et leurs petites susceptibilités. Et Sujetio affirme d'ailleurs qu'il essaye de s'en tenir autant que possible à l'écart de ces mondanités. Et un jour, convient lui dire que son refus de se joindre à un banquet avait beaucoup vexé les gens qui l'invitaient. Il a cette description que je trouve, qui me semble en effet bien résumer la situation, la mentalité du milieu, et que je trouve assez réussie. Il a cette description. D'une manière, je cite, d'une manière générale, les affaires des gens de la capitale, c'est comme le ver à soie qui tisse son cocon. Ils s'enveloppent confortablement et ils se déchargent de leurs responsabilités sur les autres. Il arrive aussi qu'il soit envoyé en mission hors de Pékin. En 1622, par exemple, il est envoyé au fameux mausolée que l'empereur Wanli s'était fait construire à très grands frais. C'est une des premières très grandes dépenses de Wanli, dès le début de son règne, il était encore tout jeune, et qui est donc la tombe d'Yingling, enfin les fameux tombeaux des Ming que tout le monde connaît. Il y est envoyé donc pour offrir un sacrifice à feu l'impératrice, à l'ancienne impératrice, donc l'ancienne épouse principale de Wanli. Et c'est l'occasion de nous rapporter une longue conversation et très intéressante avec un officier rencontré pendant ce déplacement. Mais le principal déplacement pendant cette période, principal déplacement officiel auquel une partie importante du chapitre correspondant à l'année 1623 est consacrée, c'est une tournée d'inspection des défenses au nord de la capitale, au-delà de la Grande Muraille, dont Sujetio a été chargé au début de l'été et au cours de laquelle il est également chargé de remettre, apparemment il convoyait également des fonds qu'il était chargé de remettre à divers responsables locaux. Et le récit jour après jour de ce périple, qui dure à peu près 3 semaines, est exceptionnellement intéressant à cause du réalisme très objectif avec lequel Sujetio nous décrit l'état d'abandon et de dérédiction dans lequel se trouvent ses défenses. C'est la région donc normalement désertique en effet, mais malgré tout, où elles étaient disposées, l'isolement d'officiers qui n'ont jamais avec eux les effectifs de troupes qu'ils sont supposés avoir, et ainsi de suite. Ce passage est également intéressant à cause de la façon dont Sujetio nous fait percevoir concrètement les lieux et les habitats, les distances, les paysages, les reliefs, sans parler de quelques visites de temples célèbres. Et enfin, il est intéressant à cause des nombreuses conversations que Sujetio rapporte de façon très naturelle. Toujours. Ce voyage au nord de la capitale s'articule directement à un autre voyage, mais de nature privée cette fois, celui-ci. Sujetio a en effet obtenu un congé pour retourner au pays natal, donc au Zhejiang, et pour donner une sépulture définitive à son père, qui était donc mort 4 ans avant. Sa tournée le conduit sa tournée d'inspection le conduit directement à Tianjin, donc au sud-est de Pékin. Tianjin, qui à cette époque n'était pas encore une grande préfecture, comme elle est devenue au début du XVIIIe siècle, mais simplement le siège d'une garnison. Et de là, donc, il part en bateau vers le sud. Et ce voyage au sud marque en fait une interruption de plus d'un an dans les fonctions de Sujetio à la capitale. Comme le reste de l'autobiographie, cette année d'absence est bourrée d'informations, de réflexions, d'observations et de narrations parfois très vivantes. Je pense par exemple au récit du périple extrêmement pénible pour transporter justement le cercueil de son père depuis la résidence familiale jusqu'au tombeau que l'on s'apprête à édifier, enfin la construction fait partie du rituel, au diable, au fond des collines, et c'est toute une expédition, et en même temps c'est tout un rituel qui s'étale sur plus de 10 jours. Et bien sûr, c'est un événement central dans la vie de Sujetyo, et il en parle très longuement. Et parmi les observations intéressantes, parce que de première main, je voudrais simplement mentionner la description rapide que fait Sujetyo des terribles ravages qui avaient été infligés 6 mois plus tôt à la région située à cheval sur le Grand Canal, à la limite du Shandong et du nord du Jiangsu, région qu'il a traversée en descendant vers le sud. Donc, ces ravages qui ont été infligés par ce que les historiens considèrent comme la première grande rébellion populaire de la fin des Ming. De quoi s'agissait-il exactement ? Eh bien, il s'agissait d'un soulèvement religieux déclenché par une secte dont le nom importe peu, le nom exact, mais qui appartenait à la mouvance dite du Lotus Blanc, c'est-à-dire une sorte de bouddhisme populaire millénariste à qui l'on doit une quantité de rébellions ou de tentatives de rébellion dans la plupart des provinces de Chine du Nord depuis l'époque mongole et jusqu'au XIXe siècle. Mais cette zone du Grand Canal, donc au nord, juste au nord du Yangtze, donc sur mon petit dessin, j'ai mis le Shandong ici, donc, et le Jiangsu, donc le Yangtze se jette là, et le Grand Canal, donc comme ça, donc c'est à peu près cette région à la frontière du Shandong et du nord Jiangsu. Donc cette zone du Grand Canal au nord du Yangtze a toujours été particulièrement sensible de ce point de vue, apparemment parce qu'il y avait là une sorte de tradition sectaire souterraine qui ne s'est jamais vraiment interrompue. C'est d'ailleurs de là aussi que partira le mouvement des boxeurs à l'extrême fin du XIXe siècle, bien que les boxeurs n'aient pas appartenu à la mouvance du Lotus Blanc, contrairement à ce que certains historiens ont dit. Enfin, on ne le dit plus d'ailleurs vraiment, mais ça a été longtemps une thèse. Sujetyo rapporte le récit, d'ailleurs passablement fantaisiste, certainement très enjolivé, que lui fait un vieil employé d'un relais postal sur les hauts faits d'un certain Yang Chaoti, peu importe son nom, un officier qui était sorti de sa retraite pour conduire victorieusement le combat contre les rebelles. Je mentionne cette page de l'autobiographie de Sujetyo, parce que le passage fait à peine une page. Je mentionne parce que cet épisode tout récent qu'il raconte après coup, donc la rébellion, est de seconde main, réunit de façon, me semble-t-il, symbolique plusieurs des facteurs qui finiront par emporter les Ming à peine plus de 20 ans après. Particulièrement frappante, me semble-t-il, est la conjonction de la menace mandchoue dans le nord-est et du mécontentement populaire dans l'intérieur. Un mécontentement qui, dans le cas présent, a été cristallisé donc par le succès d'une secte dont un des traits distinctifs était d'annoncer périodiquement, et en général pour une date précise et très proche, d'annoncer périodiquement un grand bouleversement cosmique au terme duquel seuls les fidèles seraient sauvés. C'était donc encore une fois une secte millénariste. Et il se trouve en effet, mais Sujetyo n'en parle pas, il se trouve qu'au moment où avait éclaté cette rébellion, la rébellion de ces gens qu'on appelait en langage officiel les Yaozei, que je ne sais pas très bien comment traduire élégamment, ça veut dire littéralement les sorciers, les bandits sorciers. Yao. Donc, au moment où cette rébellion a éclaté, la région était déjà en ébullition à cause de l'afflux des réfugiés chassés justement du Liaodong par les succès mandchous en 1621, juste avant. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la péninsule du Liaodong n'était séparée du Shandong que par une très courte traversée. Quand l'officier, dernier élément de cette espèce de conjonction symbolique, quand l'officier Yang Chaoti, couvert d'honneur et de promotion pour avoir résisté aux 10 bandits sorciers et capturé leur chef, Yang Chaoti donc mourra un peu plus tard, en 1630, et justement, il mourra en combattant les Mandchous au sud de la Grande Muraille. Quoi qu'il en soit, Sujetyo va rester encore de longs mois au Zhejiang. Il visite plusieurs sites bouddhiques, il rencontre des moines, il donne une sépulture définitive à son fils aîné, qui était mort quelques années plus tôt. Il visite les tombes de ses ancêtres, rencontre d'innombrables amis, accumule les réflexions sur toutes sortes de sujets, discute avec toutes sortes de gens, se remémore certains événements de sa magistrature à Jiangxia, etc. etc. Et en fait, les considérations sur la situation politique et militaire sont assez largement absentes du texte pendant toute cette période donc, qui passe chez lui au fin fond du Zhejiang. Et Xu Zhiqiu se remet en route pour le nord au 8e mois lunaire 1624, à la fin de son, après y être resté plus d'un an, pratiquement plus d'un an, et il arrivera à Pékin finalement à l'extrême fin de 1624. Il rencontre beaucoup de collègues et d'amis en chemin, ce qui veut dire encore beaucoup de conversations et de commentaires dans l'autobiographie, d'autant que les longs trajets en bateau sont classiquement propices à l'écriture. Mais s'il voyage par la poste officielle, donc de relais en relais, Xu Zhiqiu n'est pas en déplacement officiel. Il n'a pas de passeport administratif, ni d'escorte avec des soldats portant des fanions et d'autres marques honorifiques signalant le fonctionnaire. Et il souligne ce détail à un moment, parce qu'un ami qu'il a rencontré à Zhenjiang, c'est-à-dire la grande ville sur la rive nord du Yangtze, où on débarquait après avoir franchi le fleuve, un ami donc lui dit en plaisantant qu'avec un aussi modeste appareil, il doit se faire traiter de façon humiliante, c'est-à-dire, faut-il comprendre, par l'administration de la poste. Mais Xu Zhiqiu lui répond, pas du tout, même si j'ai du mal à progresser, que je dois dépenser beaucoup de salive et beaucoup de temps, il y a trois avantages. Premièrement, je fais des économies. Deuxièmement, j'apprends à connaître la mentalité, la façon dont la mentalité des gens change et l'attitude. Et troisièmement, mon caractère devient plus endurant. Et voilà donc bien cette obsession de l'apprentissage qui a donné son titre à l'autobiographie de Xu Zhiqiu. Je parlerai la prochaine fois, je pensais en parler maintenant, mais j'ai pris du retard, je parlerai la prochaine fois du troisième séjour de Xu Zhiqiu à Pékin, qui se déroule cette fois-ci en plein affrontement entre Wei Zhongxian et les membres du parti Donglin. Et nous verrons que Xu Zhiqiu finit par se faire renvoyer, et qu'il l'a d'ailleurs plus ou moins cherché, ce qui n'empêche qu'il aura une fin de carrière de nouveau dans l'administration, et cette fois-ci comme conseiller militaire au Fujian. Je parlerai encore de ça, et puis surtout je récapitulerai sur tout ce que le Suépu révèle de sa psychologie, de son approche de la carrière, de ses angoisses personnelles, etc. Donc tout ce qui fait vraiment de cette autobiographie un véritable texte typique de la fin des Ming. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.